voulons ouvrir le Saint-Livre, car en fait, on ne peut rencontrer l'amour de Dieu qu'en écoutant l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Je suppose que vous aimez les bonnes nouvelles. Enfin, pour ma part, je préfère avoir une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Et en cet après-midi, eh bien, nous allons vous apporter la bonne nouvelle. On va, pour ceux qui auraient avec eux la Bible ou le Nouveau Testament, faire une lecture dans l'Évangile de Jean, si vous voulez bien, au chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 1er. Et nous allons nous arrêter donc sur un lieu pendant quelques minutes, si vous le voulez bien. Donc Jean, chapitre 5, verset 2. Mais on peut commencer au premier verset. Hein. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropillés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau eût été agitée, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ou veux-tu être guéri ?» suivant la traduction. Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Et je vous amène maintenant au verset 14. Donc, vous avez bien saisi, le malade a été guéri. Et voilà ce que dit Jésus au verset 14. Après cela, Jésus le trouva, en parlant du malade, dans le temple, il lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé où tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. » Voilà, nous allons donc parler sur ce lieu et sur ce qui se passe, sur ce témoignage qui nous est rapporté dans la parole de Dieu et qui est bien sûr véridique puisque la parole de Dieu est la vérité, alléluia, et que cela puisse servir d'exemple à chacun d'entre nous, mais que nous puissions faire aussi la même expérience que cet homme paralytique qui était là au bord de la piscine. Il est peut-être bon que nous soulignions que le nom Bethesda veut dire « maison de miséricorde ». Or, je viens de vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons prendre l'exemple de cet homme malade qui est au bord de la piscine parce qu'il a fait une expérience de guérison, de délivrance miraculeuse. Alors, voilà déjà une partie de la bonne nouvelle. Et je pense que nous serons tous d'accord, ce lieu ne s'appelle pas peut-être Bethesda, dans lequel vous êtes cet après-midi, mais c'est un lieu où la miséricorde de Dieu s'exerce. Parce que Dieu est présent dans ce lieu, et parce que la présence de Jésus est là, parce que le nom de Jésus que nous invoquons apporte à celui ou à celle qui se trouve dans la difficulté, dans le besoin, ou qui se rend compte que sa vie n'est pas une vie à la gloire de Dieu, eh bien, Dieu, en un instant, en un moment, au travers de la prière, au travers du nom de Jésus, peut tout changer. Alléluia. Peut tout transformer, apporter paix, joie, guérison physique, guérison morale et guérison spirituelle. Il en a la possibilité, il en a le pouvoir, mais ça ne tient qu'à nous. Par contre, je voudrais m'arrêter aussi un petit peu sur ce lieu dans lequel se trouvait donc cet homme paralytique. On pourrait dire par rapport à la miséricorde qui est exercée, que c'est vraiment extraordinaire. Mais quand je regarde ce texte de près, permettez-moi de vous le dire, c'est un lieu où il y a du monde. Vous l'avez lu, comme moi, du monde. Il y avait, nous avons lu, beaucoup de malades. Je n'y étais pas, mais je pense qu'à côté des malades, il devait aussi y avoir des gens bien portants. Peut-être de la famille, des amis qui entouraient les malades qui étaient là. Nous savons particulièrement qu'il n'y avait pas qu'un seul paralytique, il y avait plusieurs paralytiques qui étaient là. Donc, il y avait beaucoup de monde dans cet endroit. Et on s'aperçoit finalement que dans cette maison où se passaient des choses miraculeuses, étonnantes mais miraculeuses, il y avait quand même un fait qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait peut-être aussi beaucoup d'égoïsme. Vous l'avez remarqué ? Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Et ce qui est pour nous agréable de connaître et de savoir dans la bonne nouvelle, c'est que Dieu étant là, il peut faire toutes choses miraculeuses pour vous. Et si jusqu'à ce jour, on vous a peut-être traité avec indifférence, vous n'êtes pas indifférent pour le Dieu d'amour, de paix et de délivrance. Et si vous êtes là cet après-midi, peut-être pour une des premières fois ou la première fois, ce n'est pas coïncidence, c'est parce que Dieu vous aime. Et parce qu'il a guidé vos pas à venir jusque dans ce lieu en cet après-midi. Vous faites une rencontre merveilleuse, peut-être avec un groupe de personnes, mais avant tout, vous faites une rencontre avec Dieu qui veut manifester envers vous sa grâce, son pardon, sa puissance, afin que vous puissiez connaître une vie meilleure. Alléluia. Et vous savez, quand on regarde autour de nous les personnes sur qui on peut compter, je ne sais pas vous, mais on peut parfois les compter sur les doigts de la main. Et certaines personnes, en réfléchissant, sont obligées de dire que même les doigts de la main, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a personne qui vient à leur aide, à leur soutien, à leur secours. Dans le texte que nous avons lu, nous nous apercevons bien de cela. Oui ou non ? Il y a dans cette piscine un homme qui est malade, depuis 38 ans, entouré d'une foule de gens, et personne n'est venu à son secours. Ce n'est pas moi qui le dis, je relis le texte. Hein. Mais regardez bien que quelqu'un s'est souvenu de lui. Quelqu'un a eu compassion de lui. Quelqu'un est venu vers lui. Quelqu'un lui a apporté son aide. Quelqu'un lui a parlé. Et quand ce quelqu'un, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est écrit, c'est la personne de Jésus qui s'est approchée de lui comme Jésus s'approche de vous en cet après-midi. Mais ce que je note à la question que Jésus lui pose, « Veux-tu être guéri ?» La réponse, elle arrive toute seule, claire, nette et précise, je n'ai personne. Et quand je m'approche pour me projeter dans la piscine, un autre, il va avant moi. Alors là encore, je me permettrai de dire, je n'y étais pas, mais cet homme était paralytique depuis 38 ans. Et il dit au Seigneur Jésus, quand j'y vais ? Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvait-il y aller ? Puisqu'il était paralysé. Alors, il s'y traînait, et peut-être avait-il encore la possibilité de bouger ses bras, de tirer sur ses bras, de ramper pour essayer d'arriver jusque au bord de la piscine et se jeter dans cette piscine. Mais là, il souligne, on peut le souligner, je n'ai personne. Pourtant, regardez bien, nous avons lu, il y avait plein de monde autour de lui. Mais personne n'est venu pour l'aider. Personne n'est venu à son aide. Personne même n'est venu lui dire, tu veux que je te projette dans l'eau ? Personne. Je n'ai personne. Et quand on réfléchit sur ces personnes qui se trouvent autour, eh bien, on est quand même, je crois, obligé de dire que ces gens-là ne pensaient qu'à eux-mêmes. C'est peut-être légitime, je le concède. Mais tous les gens qui étaient là ont dû voir cet homme, car certains n'ont pas été guéris de suite. 38 ans malade, sans que, pendant ces 38 ans, personne ne soit venu à son secours. Quand on réfléchit à l'état de cet homme, on peut dire qu'il a été pendant 38 ans à la même place. Je ne sais pas si vous serez de mon avis. Toujours dans les souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, pendant 38 ans. Et je continue un petit peu la liste. 38 ans sans aucune amélioration de guérison. Je ne sais pas si vous voyez. Toujours dans sa solitude pendant 38 ans. Toujours dans son désarroi car il ne devait pas comprendre exactement pourquoi tel ou tel comportement. 38 ans dans cette situation. Et permettez-moi de dire, au vu de ces choses, c'est 38 ans sans pouvoir se réjouir. C'est triste. Qu'en pensez-vous ? C'est triste. 38 ans. Eh bien, dans ce lieu-là, un homme vient et il s'appelle Jésus. Alors là, j'ai été aussi quelque part interpellé en relisant ce texte que tout le monde connaît. C'est que quand Jésus arrive dans cette piscine, lui aussi est entouré de malades. Il les voit. On est bien d'accord. Mais il est bien écrit, en tout cas c'est sous-entendu, quand il est arrivé dans cette piscine, il est allé directement vers le paralytique et il était écrit, car il savait qu'il y avait longtemps qu'il était là. Il savait qu'il y avait longtemps que personne n'était venu à son aide, à son secours, à son soutien, lui portant une certaine délivrance. Personne. Mais Jésus lui vient. Et j'aime ce cantique qu'on chantait, Alain peut-être tu te rappelleras, qui disait « Quand le maître vient, tout doit renaître. Quand le maître vient, tout s'épanouit. » Vous voyez un petit peu cet homme paralytique qui est là, qui attend rien finalement de personne et qui voit cet homme, et vous l'avez lu comme moi, c'est écrit, en tout cas vous relirez tout le texte, il ne savait même pas que c'était Jésus qui venait vers lui. C'est plus tard qu'il va découvrir que c'était Jésus qui est venu à son aide, à son soutien, à son secours. Et quand cet homme s'adresse à lui, je suppose qu'il a dû ouvrir des yeux grands. Qui c'est ? Enfin, quelqu'un qui me parle et quelqu'un qui vient me proposer une solution. Veux-tu être guéri ? Allez demander à un malade s'il veut être guéri. Hein ? Même si vous n'avez qu'un jour de maladie. Vous souhaitez être guéri, non ? Alors cet homme, 38 ans malade, on lui pose la question, veux-tu être guéri ? La seule chose qu'il peut répondre, on l'a souligné, je n'ai personne pour m'aider. Eh bien, ça n'arrête pas Jésus. Et il va lui dire, eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. On s'arrête un petit peu de secondes, on réfléchit. Cet homme aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il me demande cet homme-là ? Il ne voit pas que je suis paralytique. Et il me dit de me lever, de prendre mon lit. Mais ça fait 38 ans que je suis malade. 38 ans que je n'ai pas bougé. 38 ans que je n'ai pas fait de musculation. Réfléchissez bien, 38 ans de malade, vous n'avez plus de muscles, hein, vous n'avez plus rien. Et là, Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Eh bien, je suis émerveillé de voir que cet homme n'a pas discuté avec Jésus. Il a entendu, il a cru, parce qu'il a cru, la foi est née en lui, et les forces lui sont venues de la part du Seigneur, en un instant, il a été guéri. Alléluia. Alors là, j'aurais aimé être au bord de la piscine. Vous ne savez pas pourquoi ? Vous voulez le savoir ? Pour voir la tête des autres. il a été guéri sans passer par l'eau. Hop ! Je me lève parce que cet homme l'a dit. Je me lève ! Je prends mon lit. Alors quand tout le monde a vu prendre son lit, mais autant, d'où lui vient toute cette force ? Oui, mais Jésus nous donne une force nouvelle. Alléluia ! Et marche ! Et il est sorti ! Et je suis sûr qu'il devait avoir un sourire épanoui sur le visage. Ah ! Et il parlait à tout le monde de sa guérison. « Hey, j'ai été guéri, regardez, je marche, je porte mon lit, j'ai été libéré, je suis heureux !» Ah, on peut l'imaginer comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que oui. Mais jamais il n'a parlé que c'était Jésus parce qu'il ne le connaissait pas. Mais pourtant, sans le connaître, il a reçu la grâce de la délivrance. Aujourd'hui, vous entendez parler de Jésus, vous entendez parler de ce texte, vous entendez que c'est Jésus qui l'a guéri, mais ce Jésus qui est là dans la maison de miséricorde Bethesda, il est là cet après-midi. N'en doutez pas, il est là. Et il sait ce que tu es. Il sait tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Il sait que peut-être on te met à l'écart, on ne t'écoute plus, on ne veut rien savoir de toi, c'est fini, on se sent seul. Mais c'est dans la solitude aussi que le Seigneur Jésus se révèle. Et il dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Ne nous demande pas de croire à des textes qui en fait ne veulent rien dire. Ne nous demande pas de croire au genre humain. Il nous demande de croire seulement à la parole qu'il annonce. Parce que sa parole est une parole de vérité. C'est une parole de puissance. C'est une parole de délivrance. C'est une parole de guérison. Et cet homme l'a expérimenté. Et il ne s'est pas trompé. Pourquoi je dis qu'il ne s'est pas trompé? Et c'est pour cela que nous avons lu le verset 14. Il ne s'est pas trompé, car il sait que c'est une grâce que Dieu lui a accordée, une délivrance merveilleuse que Dieu lui a donnée, et après être sorti du lieu de la tristesse dans lequel il se trouvait, dans ce lieu de peine, dans ce désarroi dans lequel il était, dans la perte de morale, car pour lui il n'y avait plus d'avenir, lui semble-t-il, mais voilà, Jésus est venu, et la délivrance est venue avec Jésus. Alors on le retrouve. On ne le retrouve plus dans un lieu où il y a de la peine et de la tristesse, mais on le retrouve dans un lieu où il va exprimer sa joie, sa reconnaissance, sa louange. Il a changé de lieu. Il est là dans la présence de Dieu. Il est dans le temple. Il est avec Dieu. Et il est là dans le temple pour le louer, pour le remercier, pour faire partager à sa joie, à Dieu et avec ceux qui l'entourent, j'ai été guéri, j'ai été libéré, j'ajouterai, j'ai été consolé. Dieu est venu jusqu'à moi. Alléluia, comme il vient jusqu'à vous cet après-midi. Moi, je ne te connais pas, hein, mais le Seigneur te connaît. Alléluia. Et pour le Seigneur, il n'y a pas de différence. Il nous aime tous, tels que nous sommes, tels que tu es, il t'aime. Ne te demande pas d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour recevoir la grâce ou la bénédiction. Il dit simplement de croire à sa parole, de croire à son amour, de croire à sa puissance. Et nous savons que dans la Bible, il est écrit que tout est possible à Dieu. Et il y a cet autre verset que certains connaissent certainement, « Ce qui est impossible aux hommes » est possible à Dieu, parce que tout est possible à Dieu. Et cet après-midi, quel que soit ton souci, ton problème, tes angoisses, ta maladie, le Seigneur, en montant sur le bois de la croix, t'offre la délivrance. Délivrance physique et délivrance morale. Souvenez-vous qu'en mourant sur la croix, il est dit du Seigneur Jésus, c'est au travers de ses meurtrissures que les malades sont guéris. Et la guérison, je le souligne en cet après-midi, elle n'est pas que physique, elle peut être morale. Le Seigneur veut te bénir cet après-midi, te délivrer, te pardonner et te sauver. Il y a quelque chose que je voudrais dire avant de conclure, si vous me le permettez, et il ne faut pas se tromper. Et j'espère que là aussi, nous nous comprendrons. S'il y a quelque chose de plus précieux à guérir, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le moral. C'est l'âme. Parce que quand l'âme est guérie, le moral est guéri. Et quand le moral est guéri, le physique est guéri. Vous avez déjà entendu cette réflexion de certains gens quand vous leur parlez, vous dites, comment tu vas? Ils vous répondent, non, j'ai pas le moral. Vous n'avez jamais entendu cette réflexion? Puis il y en a d'autres qui disent, on pourrait presque dire à juste raison, quand le moral va, tout va. Ce qui n'est pas sûr. Mais quand Jésus est là, tout va. Amen. Vous n'avez pas l'air d'accord. Si? Quand le moral va, tout va, mais avec le Seigneur. Parce que même dans les temps les plus difficiles, il est toujours là, toujours présent, toujours prêt à répondre à nos besoins, toujours à l'écoute de nos cris, de nos prières. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Mais il veut d'abord nous délivrer de ceux qui nous gênent pour obtenir la vie éternelle. Il veut nous délivrer de nos péchés. Ce n'est pas qu'on ait commis de grands, de gros, on ne va pas rentrer dans les détails. Simplement citer que la parole de Dieu nous dit que nous sommes de par nature des pécheurs et des pécheresses. Notre nature, dès le départ, est pécheresse. Vous savez, je vais prendre un exemple. Me permettez un petit peu, 5 minutes encore. Mais moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Mais je suis d'accord avec vous, hein. Le monde est fait que de braves gens. C'est vrai? On ne va pas parler de méchanceté, on ne va pas se fâcher ce soir. Mais je vais prendre juste un tout petit exemple. J'ai lu dans la Bible que le royaume de Dieu n'appartient pas aux menteurs. Est-ce que je me trompe? Non. Donc, on part sur cette base, on n'a pas volé, on n'a pas tué, on a fait du bien. Et maintenant, je vous pose une question. Vous répondez en votre âme et conscience. N'avez-vous jamais menti? Ah! Voilà. Ce n'est pas une confession que je veux faire. Et ce que j'ai découvert dans ma vie, c'est que, figurez-vous, que personne ne nous apprend à mentir. Il y a quelqu'un ici qui pourrait dire, moi j'ai menti parce que mes parents m'ont appris à mentir, m'ont dit, il faut mentir dans la vie. Non, non, ça va peut-être vous faire sourire, mais peut-être quelques-uns ont fait la même chose que moi un jour à l'école. On va prendre un exemple qui remonte loin, hein. Parce que depuis, eh ben, Seigneur, nous parlons, quand on se convertit, dans toute la vérité. D'accord? Mais qui, je répète ma question, qui n'a jamais menti? À l'école, j'ai reçu des craies sur la tête de mon professeur ou de mon instituteur, comme vous voulez. Et quand parfois l'instituteur disait, c'est toi qui as fait ça? Oui, ça m'arrivait de temps en temps de faire quelques petites blagues. Eh bien, j'avais toujours une réponse de fait. Vous l'avez peut-être même employé un jour, vous. C'est pas moi, c'est mon voisin. Bon, c'est anodin, mais si, je prends un exemple simple pour nous faire comprendre que si on réfléchit bien dans notre vie, nous avons peut-être employé des termes beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Et puis j'ai remarqué aussi que dans la vie, quand on commence à mentir et qu'on veut se disculper, qu'on ne veut pas être condamné pour couvrir le mensonge, on en fait un autre. Mais le second, il est plus grand que le premier. Puis on s'aperçoit que, ah, alors on en fait un troisième. Et le troisième, il est plus grand que les deux précédents. Nous sommes de par nature des enfants pécheresses. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de voler et de tuer. En fait, c'est de désobéir à la parole de Dieu qui fait que nous sommes des pécheurs et que nous sommes condamnés. Mais la grâce de Dieu vient et dans le sang de Jésus, nous sommes lavés et justifiés de tout péché, nous sommes pardonnés, nous devenons créatures nouvelles dans la condition que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu pour continuer avec lui sur la vie éternelle. Car le Seigneur ne vient pas pour nous condamner, il vient pour pardonner, pour sauver et pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Dans une vie tout à la gloire de son nom, dans une vie de fidélité. Alors, en terminant, je voudrais souligner ce simple verset qui dit ceci à cet homme. Jésus le rencontre, Jésus va au temple et il rencontre cet homme. C'était voulu rencontrer cet homme parce qu'il avait un message à lui dire. Et ce message, je pense qu'il peut être pour chacun de nous ce soir. Nous sommes peut-être nouveaux, le Seigneur veut te bénir, veut te pardonner, veut te guérir, veut changer ta vie, c'est sûr et certain. Mais il y a peut-être là aussi, et très certainement des anciens, et ce verset peut être pris aussi pour chacun de nous. Car il est écrit ceci, quand il retrouva cet homme qui a été guéri, il lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et dites donc, c'est un message de bonne nouvelle, ça ? Ça dépend de quel côté on le prend. Et pourtant, c'est un message de bonne nouvelle. Le Seigneur est en train de dire à cet homme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il veut nous conduire dans le sentier de la foi, de l'écoute à sa parole, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Mais si nous ne nous mettons pas en règle avec le Seigneur, ou si nous nous sommes mis en règle avec le Seigneur, mais que nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, alors la bonne nouvelle devient une nouvelle qui ne nous réjouit pas trop, parce qu'il dira de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors là aussi, je me suis posé la question et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Pour cet homme, il était malade, tu dis de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce qu'il va retomber dans sa maladie, dans sa paralysie, dans quelque chose de plus grave ? Et puis, dans la réflexion toujours, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Là, Jésus lui a dit qu'il était sauvé. Et pourtant, il dit, si tu obéis pas, si tu fais pas, si tu respectes pas, il va t'arriver quelque chose de pire. Alors la question, mais vous allez tous avoir la réponse cet après-midi. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire quand on est au Seigneur ? Qu'est-ce qui peut donc m'arriver de pire ? Si je désobéis, je perds mon salut. Et qu'est-ce qu'il y a de pire face au salut ? J'attends une réponse, hein ? D'après vous, je ne sais pas, j'espère qu'on sera d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire de ne pas que de ne pas rentrer au salut, dans le salut ? Oui, mais vous pouvez l'appeler du nom réel, l'enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents pour toute l'éternité. Alors, frères, sœurs, amis qui êtes là, moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. Quand tout va bien et quand il y a des problèmes. Lui rester fidèle jusqu'au bout. Car Dieu me garde, je ne veux pas connaître le pire. Mais je veux connaître la joie de l'éternité. Et cela s'est donné à tous cet après-midi. Il y a la guérison, il y a le pardon, il y a le salut. Tout cela nous est accordé en Jésus-Christ. Mais il y a aussi notre désir de marcher avec fidélité, d'obéir à Dieu, à sa parole, afin d'obtenir par sa grâce la promesse qu'il a faite à tous ceux qui croient et qui vivent pour lui, c'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia! C'est-à-dire que faire un changement complet de vie, on appelle ça aussi un demi-tour, je tourne le dos à la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui et je veux suivre mon divin maître pour arriver jusque dans la vie éternelle. Car sans lui, personne ne peut être sauvé. Personne. C'est le seul médiateur que Dieu a envoyé sur la terre des hommes pour que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nous puissions vivre l'éternité en sa présence. Ce qui veut dire en terminant que c'est maintenant à toi de faire le choix. Ou tu crois à la parole de Dieu, tu ne te fies plus à la parole des hommes, tu crois à la parole de Dieu, tu la reçois et tu veux la vivre. Et à partir de ce moment-là, tout sera changé dans ta vie. Déjà ce soir, si tu reçois le Seigneur comme ton sauveur personnel, tu vas ressentir un changement dans ta vie, dans ta forme de penser, dans ta forme de parler. Parce que dès qu'on donne sa vie au Seigneur, tout change. Transformation. Et une paix et une joie vient remplir nos cœurs. Notre âme est réjouie de la présence du Seigneur. Alors, le paralytique a saisi la grâce que Dieu lui est venu apporter. Il n'a pas hésité. Il a cru, il a saisi, il a reçu, il est sauvé. Je crois personnellement que quand j'arriverai dans le ciel avec l'aide du Seigneur, je verrai un homme qui a été guéri après 38 ans de paralysie. Ouais, mais ça peut t'arriver à toi. Alléluia. Alors à toi de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je me confie en toi. Je m'attends à toi. Que tu sois d'un âge avancé, que tu sois plus jeune, nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Et ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus dans leur jeunesse, eh bien c'est extraordinaire parce qu'ils vont vivre des expériences extraordinaires. Alléluia. Ce n'est pas que nous, plus âgés, nous ne faisons pas des expériences extraordinaires, si. Mais vous les vivrez plus longtemps si Dieu le veut. Alléluia. Quand je dis si Dieu le veut, j'aurais dû dire si Dieu nous prête vie. Et je crois que c'est cela qui compte. Se remettre entre les bras du Seigneur et saisir sa parole dans son cœur afin de voir sa gloire le jour où il nous appellera. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Te disons merci, Seigneur, parce que